Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui pour l'interview 2. Jacques Sebag de l'Archi 5, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes architecte, associé, vous êtes quatre. Redonnez-moi les noms, en ce cas où, voilà, puisqu'il y a enfin une femme chez vous.
Oui, alors je vais commencer par la
par
femme.
Par elle.
Donc, exactement, Anne Pezzoni, Laurent Boudrier, Bernard Guillien et moi-même.
Bon, donc vous avez l'agence depuis un certain nombre d'années, on ne va même pas compter. On a parlé de vos projets et j'incite les auditeurs à écouter attentivement l'interview numéro 1 parce que effectivement il y a plein d'enseignements. Et là, j'aimerais bien qu'on parle justement de l'enseignement puisque vous êtes enseignant, vous êtes aussi membre de l'Académie d'architecture. Bon, c'est quoi l'enseignement? C'est quoi la transmission? La transmission, qu'elle soit aux jeunes collaborateurs ou qu'elle soit effectivement aux étudiants?
La transmission, je pense que ça fait partie aussi de notre métier. C'est vrai que lorsque j'étais étudiant et lorsque je suis devenu, on va dire... architecte.
Grand architecte.
Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de grand architecte. Il n'y a que des architectes vivants. On dit ça pour les pilotes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a que des pilotes vivants. J'ai été amené effectivement à assister aussi mes professeurs parce que je trouve que c'est un élément essentiel de l'ouverture que peuvent avoir les architectes.
Alors, comment fait-on pour l'inciter? Pour faire en sorte que il y a justement cette curiosité?
Cette curiosité, je pense qu'il faut la susciter, et on la suscite aussi, je le disais dans le premier interview, c'est qu'effectivement, il faut effectivement avoir une culture générale, il faut observer, il faut regarder, il faut écouter, il faut aller au cinéma, c'est-à-dire que tout ce qui peut
alimenter...
Il faut voyager,
c'est malgré le Covid.
Exactement, et c'est ce qui fait en sorte que toute cette matière qu'on va accumuler, finalement, elle va permettre...
C'est-à-dire qu'il faut être un être humain curieux, quoi. Mais pas, bon, pas plus ni moins que dans n'importe quelle autre matière. Qu'est-ce qui fait la différence qu'on devient architecte? C'est-à-dire que ce jeune étudiant qui sort de l'école, qui a 25 ans, fasse un certain nombre de stages, et puis, justement, il y a cette différence. Qu'est-ce qui fait qu'il devient, ou elle devient, évidemment, un bon architecte, hein?
Mais je pense qu'on devient architecte par cette envie, effectivement, de vouloir construire le monde de demain. Je pense qu'il y a plusieurs façons, effectivement, de construire le monde. C'est effectivement par les idées, par la culture, par l'enseignement. Mais la construction, contrairement aux autres arts, est un art, effectivement, où on vit à l'intérieur. Donc c'est un art social, c'est un art politique. Et cet art social et politique, il a son importance dans la société. Donc je pense qu'on construit des bâtiments, mais qu'on construit aussi les espaces publics et ce qui va autour des bâtiments. Moi, j'ai toujours tendance à dire que les bâtiments sont pas forcément des objets. C'est-à-dire que, on va dire, c'est le contexte qui est important. Le bâtiment, voilà, plus ou moins, mais un jour va rester finalement tous les espaces publics qui ont été générés par ce bâtiment. Voilà, le bâtiment, on va dire, c'est, je vais pas dire que c'est accessoire parce que certains architectes
non, mais presque.
Vont presque.
Ouais.
Voilà.
Non mais vous prêchez une convaincue puisque je dis toujours que je suis une architecte de contexte et pas de concept. Et alors bon, ça peut paraître être une phrase un petit peu comme ça alambiquée, mais je pense que vous êtes sur la même ligne. Le concept, il y a des architectes de concept et des grands et il y a pas évidemment pas de problème. Simplement, effectivement, ce sont des, on a l'impression comme même que du coup les bâtiments sont des espèces d'objets un peu sculpturaux qui sont là comme des objets artistiques mais qui quelque part sont là pour être identifiés et pas nécessairement pour être intégrés. Comment faites-vous pour justement transmettre plutôt cette idée de l'intégration?
Je pense que les bâtiments sont pas, enfin d'abord doivent pas être des objets, je pense que ça c'est un principe de base, que ce soit qu'il faut que ce soit des systèmes. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que le bâtiment est un système.
C'est-à-dire une porosité entre l'intérieur et l'extérieur.
Exactement, porosité, flexibilité, etc. Mais que le bâtiment puisse aussi, parce qu'on le voit sur certains projets, être amendé, développé, mais sans que sa forme puisse être modifiée totalement. Donc il faut que nos projets soient aussi des projets qui puissent évoluer en fonction de la programmatique, en fonction des demandes du maître d'ouvrage, en fonction des extensions qu'il peut y avoir. Donc faire des objets qui sont des objets sculpturaux, je pense que c'est pas forcément la réponse que l'on attend pour la ville.
Aujourd'hui, on demande à ce que les objets soient, les bâtiments soient de plus en plus mutables. Hein, la mutabilité est vraiment à l'ordre du jour. Comment fait-on justement pour avoir cette flexibilité, cette mutabilité à l'extrême, parce qu'elle a un coût. Aujourd'hui, prévoir un bâtiment qui sera aussi un bâtiment de demain avec une autre fonctionnalité, ça a réellement un coût. Comment fait-on ? Est-ce que on le calcule ? On l'induit de fait dans la réponse ? Comment fait-on ?
Ben, il faut que je pense que le projet, dès l'origine, il puisse être à l'intersection de tous les programmes. Et en fait, on s'aperçoit finalement que l'intersection des programmes, c'est arriver à faire un projet qui est le plus simple possible, bizarrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit complexe. Il faut qu'il soit simple pour pouvoir intégrer en fait l'ensemble des fonctions. Ouais. Et je pense que c'est ça la réponse. Comment faire un objet très simple et très beau ?
Alors très simple, très beau, sans passer par l'effet de grille, hein, si je puis me permettre. Vous voyez de quoi je parle. Ça vous fait rigoler, mais moi pas trop. On a effectivement aujourd'hui cette école de la grille. Puisqu'on a eu les années 80, 90, 2000, etc., etc. Chaque décennie avait son style. Aujourd'hui, nous sommes dans la grille. Alors, est-ce à dire que la grille, de fait, est simple et amène, de fait, une réponse derrière à ces bureaux, ces bureaux, ces logements, ces logements, ces écoles, ces écoles, etc., etc. Oui, c'est un peu simpliste, non ?
C'est vrai. Il ne faut pas arriver, comme dans les médicaments, au bâtiment générique. Voilà. C'est-à-dire au bâtiment, finalement, qui ressemble à tous les bâtiments. C'est un peu comme le Canada Dry, quoi. Et c'est vrai que la frame, comme on l'appelle, c'est-à-dire qui vient des pays anglo-saxons, qu'utilisent les architectes comme Lannes, etc., c'est
donnez-en une... plusieurs, parce qu'on avait l'impression que vous êtes contre eux.
Alors, non. Il y a Fresh, il y a effectivement d'autres architectes. Je veux pas trop les citer parce qu'ils vont se sentir stigmatisés.
Voilà, c'est ça, exactement.
Il y a des très beaux bâtiments. Les Hollandais sont les premiers à avoir fait des bâtiments d'une grande simplicité, d'une grande modernité, avec des proportions. Voilà, les proportions, ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est comment dessiner une fenêtre dans un mur. Et quand, à mes étudiants, effectivement, souvent je pose la question, je peux vous dire qu'il y en a un sur 35 qui sait le faire. Tous les autres n'ont pas cette culture.
C'est quoi ? C'est l'œil ? C'est le cadrage ? C'est la matière versus le vide ? C'est quoi ?
Je pense que c'est aussi une pratique. Je pense que la pratique, on n'est pas architecte, on le devient. Ça, c'est ce que disaient tous les grands architectes. Moi, j'avais Siriani comme professeur, spécial dédicace à Henri Siriani.
Enrique,
exactement. Je pense que lui disait, on devient architecte à 40 ans. C'est-à-dire qu'on apprend en marchant. C'est-à-dire que c'est un métier. Je veux dire, la durée de vie d'un bâtiment, entre le moment où on a fait le concours et le moment où il est réalisé, c'est 5 ans. Alors imaginons dans une vie combien on peut faire, à quel moment on commence à réellement faire ces bâtiments. Imaginez qu'on va en faire 3-4. C'est pour ça qu'une agence, je pense, c'est un creuset. C'est un atelier. Et il faut qu'il y ait cet échange. Il faut qu'il y ait beaucoup de projets. Il faut qu'il y ait effectivement tout cet échange pour essayer d'apprendre au maximum, parce que c'est pas vrai, c'est-à-dire que aujourd'hui nous en tout cas 60 ans, on est pratiquement...
Ouais, vous parlez pour vous,
non,
mais je rêve.
On est des débutants, c'est-à-dire que les questions se reposent tout le temps et les réponses sont jamais les mêmes, et elles sont parfois les mêmes, donc c'est un métier, effectivement, on est des artisans, c'est-à-dire qu'on remet à chaque fois l'outil sur l'établi, et on travaille, et on travaille, et on travaille.
Bon, vous avez décidé, puisque vous avez 60 ans, de vous poser la question de la transmission. Vous faites quoi ? C'est quoi cette jeune femme qui est arrivée dans l'agence, qui est associée, à qui vous allez transmettre une partie de votre agence ?
Je pense que, bon, c'est pas parce que c'est une femme qu'on va transmettre. Effectivement, il ne faut pas de discrimination, on va dire, positive. Je pense qu'elle est là depuis très longtemps. Elle est là depuis pratiquement une quinzaine d'années. Elle a grandi dans l'agence. Et elle a travaillé avec nous, et je pense qu'elle a effectivement cette vision. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une autre vision, il faut l'énergie aussi du futur, parce qu'il faut se projeter sur 20, 30 ans. C'est un métier où effectivement il faut y avoir une projection longue. Et cette transmission,
qu'est-ce qu'elle apporte justement ? Comment ça se passe ?
Je pense que chacun de nous, comme on le disait, nos bâtiments sont des bâtiments pluriels, on est aussi tous différents. Et comment on arrive à travailler ensemble ? On a chacun notre personnalité, et on essaye effectivement de... pas de soustraire nos compétences, mais de les additionner. Et cette addition produit quelque chose. Donc c'est avec nous aujourd'hui, mais ça peut être avec d'autres. Je pense que l'objectif, c'est pas de produire une image d'architecture, mais surtout de produire une manière de faire. Et cette manière de faire, elle peut se transmettre.
Donc c'est l'ADN de l'agence. Comment vous faites pragmatiquement pour transmettre cet ADN, hein ?
Eh bien, on montre. C'est-à-dire que la meilleure façon, effectivement, de transmettre, c'est de montrer. C'est-à-dire que les gens qui sont là montrent aux plus jeunes comment on fait, comment on faisait dans les ateliers à l'époque, comme font les artisans. Les artisans, aujourd'hui, on a tendance à virer les vieux. Je pense que c'est une connerie, on devrait les payer beaucoup plus cher. Les laisser dans les agences, une personne peut apprendre à peu près à 20 personnes. Alors que si vous avez que des jeunes, je pense que vous perdez effectivement l'essence et tout le travail qui a été acquis. Toute cette expérience dans les agences.
Donc ça veut dire que, par exemple, ces jeunes associés qui demain vont reprendre votre agence, une fois que vous serez partis à la pêche, ils vont dans les salons, dans les congrès avec vous, ils font de la représentation de l'agence, vous les mettez en première ligne sur des réunions avec les maîtres d'ouvrage. Comment ça se passe ?
Là, je pense que c'est un peu l'objet peut-être d'une autre émission.
Ah ben non.
Non, c'est une blague, mais c'est une question à poser parce que je pense que la communication des agences, elle se fait sur deux pieds. Il y a effectivement une communication qui est une communication institutionnelle. Après, ça dépend effectivement dans quel cadre on est. Est-ce que c'est les marchés publics ? Est-ce que c'est les marchés privés ?
Non, mais justement,
est-ce que c'est les
concepts
sur les... Alors nous, on fait mal, je pense. Je pense que nous, on fait mal parce qu'on compte effectivement sur le travail qu'on a réalisé, sur les références que l'on a, mais on sort aussi. Je pense qu'on a appris à sortir. Les anciens sortaient pas.
On vous voit dans des booms.
Voilà, on nous voit dans des booms. Et effectivement, alors, c'est vrai que c'est un peu évanescent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que rien se passe, mais j'ai le sentiment que tout se passe là. Donc, on a encore des choses à apprendre.
Bon, écoutez, en tout cas, j'étais ravie de vous recevoir et je pense que les auditeurs vont peut-être bien rigoler de notre échange. Merci, Jacques Sebag.
Bon, merci.
Et bon, longue vie à l'agence Archi5. Hein.
Merci pour cette interview.
Au revoir, hein, chers auditeurs, à bientôt.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.